Radio Grand Ciel, écho de ma commune et de mon canton. Une émission patronnée par le Conseil Général. À la technique, Jean-Marie, à l'animation, André. Nous recevons aujourd'hui M. Emmanuel Raffour, qui est sous-préfet de Châteaudun. Voilà. Il va nous parler un peu du rôle d'un sous-préfet, particulièrement en Eure-et-Loire aussi, nous dire un peu son parcours, puis ensuite nous rentrons dans le vif du sujet sur ce qu'il pense faire ou ce qu'il peut faire ou ce qu'on lui a dit de faire. Voilà. Bonjour, monsieur Emmanuel Raffour.
Bien, bonjour. Merci de m'accueillir dans ce studio. Alors, on va suivre l'ordre du jour qui m'est dicté. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un sous-préfet ? Alors ça, c'est une grande question. Et je pense que c'est une très bonne question parce que ça le mérite peut-être d'éclairer nos auditeurs. Alors, le métier de sous-préfet, d'abord, c'est un métier qui est passionnant et qui recouvre un certain nombre de champs très étendu d'intervention. Donc il y a des champs multiples d'intervention. Le premier, que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle la permanence et la représentation de l'État.
D'accord.
La permanence, c'est-à-dire que, comme vous le savez, les sous-préfets ou même les préfets viennent dans des arrondissements, dans des départements, à des rythmes réguliers. Mais il faut toujours avoir à l'idée qu'il y a le suivi des dossiers. Il y a le suivi des dossiers, quelle que soit la personne, l'homme ou la femme qui est sous-préfet ou préfet, il y a cette permanence, cette continuité de l'État.
Oui, vous ne partez pas avec vos dossiers sous le bras en disant l'autre se débrouille.
Absolument. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon nos partenaires, nos interlocuteurs seraient bien en mal de poursuivre leur dossier, parce que c'est vrai qu'il y a des dossiers de fond qui se prolongent sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Donc il est nécessaire d'avoir cette permanence, cette continuité, ce suivi. Et donc là, il faut y veiller très scrupuleusement et faire attention à tous ces dossiers. Donc ça, c'est le premier point, c'est la permanence. Le deuxième point qu'on peut évoquer, c'est la représentation de l'État. C'est celle qui est le plus visible. Lorsqu'il y a des cérémonies, lorsqu'il y a des inaugurations. Donc le sous-préfet est là donc à tous ces événements de la vie locale. Il est là physiquement, mais aussi il est là par son statut et il est une incarnation juridique du gouvernement. Il représente, par délégation du préfet, l'ensemble des membres du gouvernement.
Donc en principe, le préfet n'est pas politique, il est aux ordres du gouvernement, il applique la politique du gouvernement.
Il est là pour appliquer effectivement les politiques publiques du gouvernement, les appliquer au niveau départemental et avec ses collaborateurs sous-préfets, il est là aussi pour faire décliner ces politiques au niveau local. Donc derrière cette représentation, effectivement, il y a des qualités, des prérequis que l'on doit avoir. On pense à la dignité, à l'exemplarité et puis cette proximité de l'État qui est indispensable à nos jours, cette proximité où d'ailleurs les élus sont très demandeurs, où la population est très demandeur, parce qu'on est aussi la première porte d'entrée pour l'État. Le sous-préfet est vraiment le personnage qui permet d'avoir cette proximité avec l'État. Alors, au-delà de cette permanence et de cette représentation de l'État, il y a un deuxième point qui est très important, c'est la sécurité et la garantie de l'ordre public.
D'accord.
Ça peut faire peur, attention, là on touche du sensible, mais c'est pour le bien commun, c'est naturellement pour le bien de l'intérêt général. Alors il y a trois vecteurs, on pourrait parler de la sécurité publique. Ici nous avons la chance d'avoir un excellent colonel, et là je le dis sans aucune hésitation, parce que c'est important d'avoir la sécurité, et je suis là aussi pour préserver la sécurité des personnes et des biens de mon arrondissement. J'ai pour cela la possibilité de m'appuyer sur des services professionnels. Le sous-préfet, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme, ce n'est pas un médecin. Il y a des professionnels sur lesquels il peut s'appuyer, des vrais professionnels, c'est leur métier. Mmh. Et c'est là tout le fruit d'un travail en commun qui permet à un arrondissement de vivre d'une manière...
harmonieuse.
Harmonieuse. Hein. On parle souvent du bien collectif, du bien vivre ensemble. Eh bien, le sous-préfet est là pour faire ce lien entre les différents services. Donc, dans ce panel, il y a effectivement la sécurité publique. Il y a une importance qui est capitale à nos yeux aujourd'hui, c'est la sécurité routière, qui n'est pas forcément réservée qu'à Châteaudun, mais aussi à l'ensemble du département et d'une manière générale sur l'ensemble du territoire national. Là, il faut... En dehors de l'État, je crois que tout le monde a son rôle à jouer, les associations, les parents, l'éducation nationale, tout le monde a son rôle à jouer, quel que soit son niveau. J'ai pu constater qu'il y a des drames qu'on pourrait éviter, mais c'est cette prise de conscience, et c'est vrai que les mentalités, on a toujours... On râle lorsque on voit un radar, on ouais. râle lorsqu'on voit un policier ou un gendarme. Mais c'est capital. Il faut faire de la prévention. Il faut faire aussi de la répression parce que ça fait partie des moyens, des dispositifs qui permettent de limiter le nombre de morts sur les routes. C'est ça ma priorité. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est sécurité civile. Et on en parle peu. Et pourtant, les maires sont aussi en première ligne lorsque vous avez des tempêtes. Donc j'ai appris aussi que dans l'arrondissement, il pouvait y avoir de la neige. Parfois, il y a eu des années où il y avait beaucoup de neige. Mmh. Et il faut aussi gérer ce phénomène neigeux. Donc tous les acteurs sont là. Et ça peut être relayé par un service qui est spécialisé à la préfecture qu'on appelle le site PC. Alors c'est un terme peut-être un peu barbare, mais qui veut dire service interministériel de défense et de protection civile. D'accord. Lorsqu'il y a des catastrophes, ce site PC, sous l'autorité du préfet et du directeur de cabinet, peut se mettre en place et mettre en place ce qu'on appelle un centre opérationnel départemental qui permet de gérer une crise. Donc ça peut être de tout genre. Ça peut être un avion qui se perd, ça peut être
une tempête,
ouais. une inondation. Tous ces phénomènes-là, en fin de compte, sont gérés par cette structure sous l'autorité du préfet, avec l'appui, bien évidemment, des élus. On ne peut rien faire sans...
Et des sous-préfets.
Et des sous-préfets qui participent, puisque, en fin de compte, ils sont... les yeux et les oreilles du préfet. Donc d'accord. on doit être là, on doit tout savoir, parce que le préfet a besoin, il peut être partout, il y a beaucoup de dossiers, donc il doit compter sur ses collaborateurs pour l'informer, pour lui faciliter la prise de décision, et ça c'est capital. Après, on peut rentrer dans un volet, donc un troisième point, ce qu'on pourrait appeler un nom peut-être un peu plus technique, mais peut s'expliquer. Ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. C'est en fait, on l'a un petit peu évoqué avec vous tout à l'heure, monsieur, c'est de mettre en musique, je sais qu'il y aurait des morceaux musicaux, donc je peux me permettre de faire cet aparté, de mettre en musique ces politiques publiques. D'accord. Alors, elles sont de toutes sortes. Ça peut être l'environnement, ça peut être l'emploi, ça peut être la sécurité... Tous les volets dont le gouvernement doit mettre en place, eh bien, le sous-préfet est là pour les mettre en place.
Voilà. Donc, nous allons écouter de la musique, puisque vous venez d'en parler. On en écoute le Beau Danube bleu.
Thank you.
Radio Grand Ciel, écho de ma commune et de mon canton. Nous recevons aujourd'hui M. Emmanuel Bafour. Je me suis trompé, j'ai dit Rafour tout à l'heure, mais c'était une mauvaise écriture. Sous-préfet de l'arrondissement de Châteaudun. Donc il nous a bien développé les trois points qui sont importants dans son travail. Et là maintenant, peut-être vous allez nous dire un peu votre cursus. Vous nous aviez dit, lorsque vous avez reçu, que vous avez connu des tempêtes.
Oui,
ou des
oui.
suites de tempêtes.
J'ai connu des tempêtes et des ouragans, mais on s'en sort toujours. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, parce qu'au départ, rien ne me prédestinait à une carrière ou à une évolution professionnelle de haut fonctionnaire, puisque j'ai commencé dans la fonction publique, qui était pour moi un petit peu ma boussole. J'avais fait des études de droit parce que l'intérêt général, le sentiment d'être utile, a toujours été cette boussole qui m'a dirigé tout au long de mes études. Et à l'issue d'un premier cycle universitaire, j'ai passé... Je voulais être, en fin de compte, fonctionnaire de police. On a des rêves d'enfant.
Oui.
Et être commissaire de police, on est loin des séries télévisées, mais voilà, ça scintillait dans mes yeux. Et du coup, je ne suis pas rentré par la grande porte, comme on dit, mais par la petite porte, parce que j'ai commencé cette profession en qualité de gardien de la paix. Et je ne regrette pas du tout, parce que c'est une belle école, c'est une belle école de la vie, c'est une école difficile. Parce que vous avez un regard sur les choses un peu négatives de la vie. Mmh. Ce prisme qui déforme un petit peu les relations qu'on peut avoir avec les autres. Et ça remet aussi les pieds sur terre, parce que c'est vrai que l'actualité montre un certain nombre de faits, de violences... Mais le vivre au quotidien, c'est différent. Et cette fonction-là, moi, j'admire toujours, et encore, peut-être encore plus maintenant, ces hommes et ces femmes qui sont en uniforme, qui parfois, leur métier est peut-être un petit peu méconnu ou vu sous une étiquette uniquement répressif. Comme
oui.
je disais tout à l'heure, on voit le gendarme parce qu'il verbalise, on voit le policier parce qu'il arrête l'automobiliste qui fait une infraction. Mais derrière tout ça, je crois que ce sont des gens, et j'en suis convaincu, qui risquent aussi leur vie au quotidien pour sauver, porter secours à des gens qui en ont besoin. Donc ce passage dans la police, qui a duré 6 ans, a été très formateur, parce que j'ai pu donc découvrir un petit peu la nature humaine, comme on dit, en toute modestie, et puis m'ouvrir les yeux sur la vie, parce que bon, c'est vrai, quand on fait des études, on est un petit peu protégé, on est un petit peu dans son cocon. Et passer donc dans ce corps... De fonctionnaires de police a été vraiment salutaire. Et puis, comme vous avez parlé de tempête, il est arrivé un accident de service où, donc, à ce moment-là, j'ai dû réorienter donc, mon parcours professionnel. Comme tout à chacun, je sais qu'on a tous des incidents de parcours. Et comme beaucoup, comme l'exemple qu'on peut avoir autour de nous, on se relève et puis on fait face et on avance. Et donc, j'ai repris des études et puis j'ai passé des concours. Et puis, le concours que j'ai réussi, c'est le concours d'attaché d'administration. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concours? En France, vous avez la prestigieuse école d'administration qu'on appelle l'ENA, et puis vous avez aussi les écoles, ce qu'on appelle les instituts régionaux d'administration, qui forment les attachés d'administration, les cadres de la fonction publique.
D'accord.
Donc, j'ai intégré cette école à Nantes, qui est d'ailleurs une très belle région, pendant une année où on vous forme sur des techniques administratives, sur des techniques de management, sur un certain nombre de positionnements, des stages que j'ai pu faire en administration centrale et à l'éducation nationale. Et donc là, on a un spectre de connaissances qui nous permet à l'issue de choisir une direction que nous aimerions faire. Et donc, à l'issue de cette scolarité, J'avais, je vous cache pas, toujours en tête
l'idée
de...
La police.
Exactement, vous m'avez devancé. Hein, cette petite lumière qui clignote en disant, bon, malheureusement, j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais ce corps de policiers, aussi le monde de judiciaire, gendarmesque, la sécurité civile, c'était des sujets qui me passionnaient, qui m'intéressaient. Encore une fois, j'ai eu affaire qu'à des gens passionnés. Et lorsqu'on a affaire à des gens passionnés, eh bien, vous les suivez. C'est tout simple. Et donc, bah, j'ai choisi le bureau des étrangers. Encore une fois, j'ai découvert ce bureau.
Donc à Nantes.
À Nantes, oui. À la préfecture de région, à la préfecture de Loire-Atlantique. Et là, encore une fois, je ne vous cache pas, on y allait un petit peu avec des préjugés. Et j'ai vu l'importance de ce bureau et la dignité de ce bureau. Parce que souvent, on peut lire ici ou là, ou des interprétations qui sont faites sur l'instruction des dossiers d'étrangers, qui n'est pas toujours facile, parce que il y a aussi le cadre administratif qu'il faut respecter. Il y a les députés, les sénateurs qui créent des lois et qu'il faut appliquer. Mais derrière tout ça, cette réglementation, vous avez de l'humain en face de vous. Ce n'est pas un numéro de dossier que l'on traite. C'est avant tout un humain, que ce soit un homme ou une femme. Il faut avoir toute la considération, le respect. Et je crois qu'on peut faire passer des messages, on peut appliquer la loi.
Humainement.
Exactement, avec toute l'humanité nécessaire.
D'accord, donc après ce passage aux étrangers, on pourrait dire, vous avez pris d'autres postes, je suppose.
Après, oui, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, et je suis parti outre-mer avec ma famille. Ça a été une belle aventure parce que je suis parti 2 ans comme chef du service interministériel de défense et de protection civile que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous voyez, tout se tient presque.
Un de vos lobbies aussi.
Voilà, à Mayotte. Alors là, c'est une petite tête d'épingle dans l'océan Indien où là, encore une fois, tout au long de mon parcours, vous verrez, l'humain a une place très, très importante. Et c'est un territoire particulier, attachant, je dirais même envoûtant. Parce que nous n'avons pas de repères. Nous, on a été, allez, un peu formatés à nos institutions, à notre façon de vivre en métropole. Et là-bas, les repères sont différents parce qu'il y a 95% de musulmans, donc une autre culture. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Alors, personnellement, mais aussi professionnellement, parce que c'est un véritable, allez, j'emploie le mot, laboratoire administratif. Mais depuis qu'ils sont passés 101e département, voilà, on est passé à autre chose. Mais encore une fois, je crois que le fonctionnaire, quel qu'il soit, il peut faire son poste, il peut faire avancer les choses, bien quel sûr. Que soit le niveau. Qu'il occupe.
Donc, après ce passage outre-mer, vous êtes revenu en France, je suppose ?
Alors, oui, mais toujours côté mer, parce que la mer, c'est quelque chose qui m'attire. Je suis arrivé, j'ai postulé pour un poste de chef du bureau du cabinet en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Donc là, changement de décor, la mer est un peu plus froide. mais encore une fois, je découvrais un nouveau métier, un peu plus axé sur la sécurité publique, parce que le chef de cabinet, sous l'autorité du directeur de cabinet, met en place les politiques de sécurité.
Et vous êtes arrivé avant les inondations ou après ?
Alors, je suis arrivé quelques mois après les inondations, et donc, c'est le préfet Bro, ancien préfet de l'Eure-et-Loire, qui m'a accueilli dans son cabinet. Et c'est vrai que c'est un événement qui reste. Et encore aujourd'hui, 5 ans après, je suis parti il y a quelques mois, cette cicatrice, elle est toujours ouverte. Parce que c'est un phénomène, un événement extraordinaire dans tous ses sens, et qui a vraiment marqué les Vendéens, et je pense aussi qui a marqué les fonctionnaires qui étaient en poste, mais aussi au-delà des frontières du département.
Voilà, nous allons prendre une pause musicale. Nous écoutons de Smetana la Moldau. Radio Grand Ciel, écho de ma commune et de mon canton. Nous recevons M. Emmanuel Bafour, qui est sous-préfet de l'arrondissement de Châteaudun. Et donc, il nous a dit un peu à quoi servait un sous-préfet dans une première partie. Dans une deuxième partie, il nous a donné un peu son cursus, qui est varié, mais qui est toujours axé, d'après ce que j'ai compris, sur le bien-être des humains. Et maintenant, vous allez nous dire un peu vos projets à Châteaudun.
Alors oui, c'est vrai que lorsque on arrive dans un arrondissement qu'on ne connaît pas toujours, c'est aussi la richesse de ce métier parce que vous êtes nommé par décret du président de la République et donc vous ne savez pas forcément où vous allez aller.
Ni ce que vous aurez à faire.
Exactement, vous n'avez pas connaissance des dossiers. Donc dès que vous avez votre décret de nomination, la première chose, le réflexe que fait le sous-préfet, c'est d'aller s'enquérir auprès de son successeur et de lui poser plein de questions sur l'arrondissement, sur les dossiers. Parce que en fin de compte, il faut aller vite. Il faut absolument intégrer les enjeux, les problématiques de l'arrondissement, repérer ses interlocuteurs, les élus. Donc c'est un travail de fond, un véritable travail de marathon. On est des coureurs de fond presque.
Ouais.
Donc moi je suis arrivé dans ce... D'abord je voudrais quand même souligner cette fierté d'être dans cet arrondissement. Ce sont des responsabilités qui sont importantes, qui m'ont été confiées sous l'autorité du préfet Nicolas Quillet, le préfet de département. Et donc, moi, j'arrive avec toute l'humilité, parce que quand vous découvrez un arrondissement, il faut arriver avec ouvrir grand ses oreilles, écouter les uns les autres, comprendre aussi comment fonctionne la vie locale. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons et il est important donc d'avoir ce contexte pour s'asseoir et prendre aussi, malgré que j'ai parlé d'un coureur de fond, il faut aussi se poser et s'imprégner de l'univers dans lequel on va travailler. Et ce travail, il ne se fait jamais seul. Il se fait avec les partenaires économiques, les associations. Il se fait aussi avec les élus et sans le soutien des élus, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce que...
Mais peut-être les élus, sans votre soutien, ne peuvent pas avancer non plus.
C'est vrai. Je pense qu'on a besoin. C'est un travail complémentaire. C'est un travail commun. Et on a tous en tête. C'est l'intérêt général. Donc ce travail collectif de coopération, il doit être présent. Il doit être présent et permanent. Et c'est pour ça que le sous-préfet, il est aussi à la disposition aussi des citoyens, de la population. La sous-préfecture est là aussi pour accueillir. D'ailleurs, je laisse passer un petit mot, parce que son hall d'accueil sera refait pour, encore une fois, mieux accueillir la population, les administrés, les usagers, mais aussi les collectivités qui souhaitent avoir de l'information. Alors, vous avez parlé des dossiers importants pour l'arrondissement. J'ai pu voir, et ça y est, je suis parti dans le fond des dossiers. Il y a l'économie et l'emploi. C'est vrai que ça, c'est une priorité, des priorités. Il y a eu un contrat, c'est le contrat de redynamisation du site de la Défense qui a été lancé par le préfet au mois de juillet avec un certain nombre de signataires. Donc là maintenant, encore une fois, la musique est toujours là, mais il faut mettre en musique, il faut mettre en partition ces actions qui ont été posées sur le papier. Et là, il faudra soutenir et développer la formation initiale et la formation continue. Il faudra soutenir à la création et au développement des entreprises avec des aides à l'emploi. et puis aussi s'attaquer à la reconversion des sites libérés par la Défense. Donc vous voyez, il y a des gros chantiers, ils sont déjà fléchés, mais maintenant, il faut les mettre en pratique. Je vais aussi lancer ce qu'on appelle les cafés de l'entreprise. Donc prochainement, vous en avez la primeur, parce que je n'ai pas encore fait le courrier aux entreprises, donc je vous le dis, ça va être d'inviter les chefs d'entreprise de l'arrondissement en sous-préfecture, quel que soit en fin de compte leur domaine d'activité, en présence de la direction du travail, de Pôle emploi, de Cap emploi, de la mission locale, de manière à leur présenter les dispositifs pour recruter, pour évoluer, pour se transformer, parce que c'est vrai que vous le savez, il y a beaucoup de mesures qui sont faites en faveur de l'emploi. Et parfois, c'est la connaissance qui manque. Donc, je considère que c'est les cafés, et puis autour d'un café, c'est convivial, on peut dire beaucoup de choses. Et ça permettra, je pense, de faire ce lien avec les entreprises et pouvoir échanger sur leur avenir, sur leur développement, mais aussi sur leurs difficultés avec des professionnels. Et puis, il y a d'autres chantiers qui sont la sécurité, bien évidemment. On l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, où là, je serai présent, notamment sur la sécurité routière. Et puis, un grand sujet qui mobilise tous nos élus, c'est l'intercommunalité. Là, encore une fois, le sous-préfet est là pour les accompagner hein, dans leur choix, et puis aussi peut-être soulever ou résorber quelques inquiétudes qu'ils pourraient avoir sur ce nouveau schéma. Et puis aussi, il y a le volet touristique, parce que j'ai eu la chance hier soir de visiter le château, et tel une rempart, je crois que le sous-préfet doit pouvoir rester en poste et boucler un maximum de dossiers pour qu'il remplisse sa mission de sous-préfet.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez l'air d'un sous-préfet heureux, je dirais pas joyeux, mais souriant, et que si vous faites effectivement un peu mieux, que l'accueil soit encore meilleur dans votre sous-préfecture, ce sera formidable, et puis bon vent pour tous les grands projets. Alors.
Merci, et puis encore une fois, on peut faire notre travail avec le sourire, avec l'enthousiasme et toute l'énergie, et je pense que c'est encore mieux.
Merci beaucoup. Au revoir.